Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Eh bien le bonjour à tous et à toutes. Cette émission d'Aura les pâquerettes est ce mois-ci proposée par Radio Grésivaudan. Notre radio couvre la zone entre Grenoble et Chambéry. Il s'agit d'un territoire en pleine dynamique d'innovation technologique. Et au milieu de tout cela, nous avons eu à cœur d'aller à la rencontre de ceux qui pensent, qui voient, qui font différemment. Bienvenue au pays des empêcheurs de penser en rond. Au sommaire de cette émission, pas moins de 3 sujets pour vous. Et nous allons commencer avec Sanaël.
Saviez-vous qu'il existe à Grenoble un organisme unique militant pour une liberté dont nous sommes nostalgiques ? Ce court reportage s'intéresse aux cabines téléphoniques et à l'OIRCT, l'Observatoire international de réinstallation des cabines téléphoniques.
Et après les cabines téléphoniques, nous serons avec Hervé.
Et si on partait à la découverte du côté punk de notre région ? C'est en tout cas ce que nous proposent Nicolas Bonani et Margot Capelier, auteurs du livre qu'on attendait tous, Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province, 1980-2020. Nous pourrons les entendre tout à l'heure.
Et nous terminerons l'émission avec l'association Patriarchie et nous vous parlerons de féminisme, de genre et d'inclusion. C'est une association qui fait rimer militantisme et conneries.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Les cabines téléphoniques avec l'OIRCT. Nous sommes en France, le 15 août 1881, à l'exposition internationale d'électricité. La Société Générale du Téléphone, Alcatel, nous présente pour la première fois les cabines téléphoniques. Ils ont donc installé 30 cabines en démonstration que les gens pouvaient utiliser à leur gré. On l'appelle encore à cette époque le publiphone. Pour comparaison, aux États-Unis, le brevet sur les cabines téléphoniques a été déposé par William Gray en 1989. Entre 1997 et 2008, leur utilisation a décliné de 60%. Mais pourquoi ce déclin alors que la cabine a l'avantage d'être partout et d'avoir une répartition raisonnable? En effet, dans chaque commune se trouve une cabine. Et au-dessus de 1000 habitants, une cabine de plus. Leur déclin s'explique par un manque d'utilisation, moins de 5 minutes par jour par cabine, et donc un manque de rentabilité. Le chiffre d'affaires en 2000 était élevé de 515 millions, contre 12 millions en 2015. Aux États-Unis, en 1999, on comptait 2 millions de cabines. Il n'en reste que 5% en 2018.
Alors, moi je suis Julien, je fais partie de l'OIRCT, l'Observatoire international de réinstallation des cabines téléphoniques.
Ok. Valérie, gentil membre aussi de l'OIRCT.
Ok, parfait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'OIRCT ? Quelles sont vos activités, quoi ?
Nous, initialement, l'idée, c'est de critiquer, cette numérisation du monde. En gros, le fait que toutes nos actions du quotidien soient maintenant presque toutes reliées au fait d'avoir un smartphone. Au moins un téléphone portable, mais en tout cas un smartphone, et que quand on n'en avait pas, c'était une limitation des libertés, parce que ça devient très compliqué de faire plein d'actions administratives quand on n'a pas de téléphone, parce qu'il renvoie un code SMS pour la sécurité. Donc il y a déjà cette chose-là liée aux libertés individuelles. La difficulté de communiquer, du coup, c'était aussi du service public dans l'espace public qu'on essaye de remettre, parce que ça a été malgré tout un service public qui a été démantelé, comme beaucoup d'autres. Donc du coup, le fait que quand on est dans la rue, avant, on pouvait appeler n'importe où quand on n'avait pas de téléphone portable. Et en tout cas, à l'époque où ça ça n'existait pas, bien sûr. Et puis, il y a toute la notion des données personnelles. Les smartphones, quand on se trimballe avec un smartphone, dans toutes nos actions quotidiennes, ne serait-ce que déjà la géolocalisation, mais après, maintenant, comme on le sait, pour payer, on utilise une appli. Il y a eu le grand temps du QR code du pass sanitaire. Donc, toute cette surveillance d'État et d'entreprise et de marketing autour de nos données perso, c'est les choses qu'on critique. Et puis après, il y a tous les arguments écologiques, c'est-à-dire la 5G, le smartphone, tout ça, c'est une quantité de données qui transitent et qui a un coût énorme. Le numérique mondial, ça a dépassé l'aviation en termes de rejet de CO2 il y a 3 ou 4 ans. Donc ça devient 10% de la consommation énergétique mondiale, c'est le numérique. Donc voilà, ça procède aussi de ça, de se dire, en fait, le low-tech, les choses qui fonctionnaient, qui permettent de communiquer, elles ont disparu. Et pourtant, c'était assez neutre en termes écolo. Alors des arguments comme ça, il y en a quand même pas mal. Ça permet de pas mettre un smartphone dans la main parce que plein de parents sont un peu tentés de donner un téléphone à leur gamin de 10 ans parce que forcément il y a la pression sociale qui fait que on a ces exemples d'enfants qui viennent au parc et qui utilisent le téléphone juste pour dire à leurs parents je suis bien arrivé au parc et puis qui le réutilisent pour dire maman je repars, j'arrive à la maison. Ça permet de limiter un peu le fait de mettre des téléphones dans les mains des enfants quand les parents sont un peu en dissonance là-dessus et qui se sentent un peu obligés de le faire malgré tout.
Le réseau analogique fonctionne plus. Du coup, on avait soumis notre projet au budget participatif de la ville de Grenoble le 26 mars. On est arrivé 6e sur 60 et quelques. On est à la phase maintenant de faisabilité. L'aspect pratique, ce serait un maillage dans les quartiers, environ 22 cabines. Ce serait un chiffre qui nous paraîtrait intéressant et peut-être avec un raccordement aux maisons des habitants, auquel cas on pourrait se brancher sur leur...
Qu'est-ce que le budget participatif en fait ?
En fait, c'est n'importe qui peut monter un projet de budget participatif et du coup, c'est les habitants qui élisent les budgets. Donc là, il y en avait 60 au départ. Il y a une première phase où on a éliminé 30, donc on est encore dans la course, on arrive 6e. Et puis après, il va y avoir une deuxième phase avec encore du vote pour finir à normalement 10, je crois. Je crois qu'il y en a 10 qui finissent et qui sont financés. Et donc là, on a une interaction après avec la ville. Pour savoir comment faire concrètement mettre en place le projet. Alors il y a des projets très divers et variés. Ça peut être un jardin partagé, une piétonnisation d'une rue. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et puis nous, c'était la demande de réinstallation de 22 cabines téléphoniques.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le nom OIRCT ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut décrypter un peu le sigle ? Pourquoi observatoire ? Est-ce que vous en savez plus ? Pourquoi international aussi ? Et est-ce que tu en sais plus sur la situation dans les autres pays ? Est-ce qu'il y a des pays où c'est encore démocratisé la cabine téléphonique jusqu'en France ?
Alors, redémocratisé.
Oui, la cabine, elle cohabite très bien, notamment au Japon, 161 000 cabines. Notamment avec un argument pour le risque sismique. Quand les réseaux tombent, ils passent du coup sur les fixes, en tout cas dans les gares, il y en a encore énormément. L'Australie, 15 000 cabines, alors là elles sont gratuites, c'est la volonté du président de Telstar, l'équivalent d'Orange en France. Lutte contre la précarité, contre l'isolement, pour alerter en cas de catastrophe tsunami, feu. Sinon, au Royaume-Uni, 5000 cabines ont été sauvées. Elles sont quand même maintenues un peu sous surveillance, dans des zones qui ne sont pas couvertes par les réseaux mobiles. Et en tout cas, ça sera corrélé à un taux de fréquentation aussi. Ça dépendra de leur pérennité, mais en tout cas, il y en a encore 5000. On a reçu des photos du Portugal, de Venise, de Milan. Nous, elles ont été vraiment supprimées. C'est la loi Macron de 2015 qui qui a sonné le glas. Il en reste moins de 5 a priori dans des zones blanches en France, parce qu'Orange a l'obligation de les maintenir. Mais 5 ou même pas, je crois. Ouais. Mais il y a déjà des irréductibles bretons qui avaient réinstallé pour lutter contre l'installation d'une antenne à Saint-Cadou. Ils avaient aussi, mais devant chez eux, du coup.
Ok.
Voilà.
En Italie, ça tourne. Hein. Elles sont à pièces et puis ça marche. Ça marche encore, quoi.
Ok. Ils les ont jamais démontées.
Je crois pas. Non. Ouais.
Moi, j'ai une question sur les 22 cabines que vous voulez réinstaller. Si vous les réinstallez, à quoi est-ce qu'elles ressembleraient? Est-ce qu'elles seraient comme celles qu'on voit au parc Marliave? Ou est-ce qu'elles seraient différentes?
On n'y a pas trop réfléchi. Moi, dans le plus grand des rêves, ça serait d'en embêter vraiment qu'ils ne soient pas forcément adossés aux maisons des habitants. Mais parce qu'en fait, il y a les réseaux qui passent principalement au niveau des lignes de tram et qu'on pourrait mettre une cabine vraiment un truc comme avant, c'est-à-dire abrité, on rentre dedans, etc. Alors après, ça, c'est la question de combien ça coûterait, la faisabilité technique, ça, faut qu'on voit avec la ville. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a cherché un peu, il y a encore des producteurs de ce qu'on appelle téléphones durcis, en fait, les téléphones de cabine qui soient inviolables, qui soient vraiment, qui résistent à tout sauf aux tailles, hein, parce que de toute façon, ils pourront être taillés, c'est pas trop un problème, mais bon, tant que ça marche, mais voilà, pour des trucs un peu robustes, et ouais, ça s'achète, ça coûte 300 balles et puis on peut avoir des téléphones durcis comme ça. Donc là, ça pourrait être ce type de téléphone qui soit fixé sur un mur, voilà, et puis ça suffirait si derrière il y a le branchement qui peut se faire, quoi.
Nous, l'idée, c'est plus la téléphonie mobile que l'édicule cabine, où on pourrait peut-être nous rétorquer qu'il est peut-être pas très Covid-friendly, je sais pas, qu'on pouvait rester coincé dans les portes. En tout cas, oui, on était abrités, c'est sûr. Nous, pour l'instant, pour la pluie, mais il y avait 454 cabines dans Grenoble, hein, à la grande époque. Et en France, c'était en 97, 300 000, hein, le pic, voilà. Ouais. On a répertorié sur notre site internet les emplacements des 450 cabines, hein, en sachant qu'il y en avait 25 à la gare, hein, déjà, mais... Voilà, on voit l'ancien maillage sur...
Je me suis servi pour le reportage.
Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous vouliez rajouter des trucs encore? Ouais.
Juste pour dire qu'il y a une deuxième qui va être installée bientôt. C'est en cours, faut qu'on se speed un peu parce que c'est un endroit qui est en fait c'est des bureaux partagés qui sont ouverts à travers des îles. Le lieu, il s'appelle la Cata, et ils nous ont demandé, ils sont trop intéressés par l'idée, la dimension politique, donc ils voudraient en installer une devant leurs locaux, et donc on se brancherait directement sur leur box à l'intérieur. Et voilà, ça serait normalement, faut qu'on fasse ça pour le 4 juin, donc voilà, faut qu'on se dépêche pour faire un peu la bricole, et puis il y en aura une deuxième qui va voir le jour.
Okay. Et vous êtes combien en tout à l'OIRCT?
D'actifs, de gens qui sont membres, beaucoup, je sais plus combien, ça, c'est pas moi qui ai géré les trucs, mais il y a peut-être eu, ouais, voilà. Alors après, on n'est pas monté en assaut, mais il faudrait qu'on le fasse, ça serait bien. Pour l'instant, c'est un collectif. D'accord. Mais il y a l'idée là, c'est juste, bon, faut faire de la paperasse, ça prend un peu du temps, mais voilà, il faudrait qu'on crée une assaut. Et donc de sympathisants, ouais, peut-être une centaine, et d'actifs, on va dire une dizaine de gens qui font au quotidien. Voilà.
Okay. Et d'autres questions qui me viennent juste comme ça. Là, vous avez encore besoin de faire de la maintenance, je ne sais plus, une fois par semaine, vous m'avez dit sur cette cabine, un peu plus. Est-ce que l'objectif sur les prochaines, c'est vraiment de les rendre totalement autonomes?
Celle-ci, on l'a mis en place rapidement parce qu'il fallait que ça se mette en place. Là, on fait évoluer le système pour que ça soit moins pénible, mais en gros, tous les 5 jours, il faut changer la batterie. Et ouais, l'idée, c'est d'avoir. Et on va voir avec un petit panneau solaire si on ne peut pas la rendre autonome. Voilà. Et puis la deuxième, on sera branché électriquement dans les locaux de la structure. Donc là, elle sera autonome, il n'y aura rien à faire. Voilà. Bon, le mieux, l'idéal, c'est effectivement via le budget participatif d'avoir des choses vraiment branchées au réseau de la ville, électriquement, au niveau du réseau téléphone, et puis qu'effectivement elle soit autonome, qu'il n'y a rien à faire. Parce que c'est sûr que, voilà, sur du réseau GSM, faut déjà, un, c'est un coût, donc il faut payer les abonnements, et puis deux, il faut aller recharger les batteries, tout ça. Bon, décemment, on ne pourra pas le faire, quoi.
ça ne nous convient pas trop que ce soit sur le réseau GSM aussi, dans le principe.
Ok, ouais, non, juste pour finir, est-ce que vous n'êtes pas une asso, donc on ne peut pas forcément adhérer, mais est-ce qu'on peut rejoindre votre collectif s'il y a des gens qui sont intéressés? Comment vous aider?
On a la possibilité des petites cartes hein, au concert. Moi, je sais que j'ai adhéré il y a un peu plus d'un an. J'étais la numéro 35. Voilà, une petite carte avec du coup la possibilité de recevoir les infos via notre site internet aussi. On peut prendre contact et toutes les bonnes volontés de toute façon leur place.
Ouais, sur le site, il y a tous les contacts. Le site, c'est oirct.org. Et puis après, vous allez avoir un mail contact@oirct.org. Et puis là, faut pas hésiter. Et puis, on voit ce qu'on peut faire. Mais il y aura toujours des choses à faire.
Au ras des pâquerettes.
Sun, ukulele sun, que ton bois résonne sous le glissé de mes doigts. Oh sun, fais chanter ton homme, vois comme ça rayonne lorsqu'on ton son se déploie. Oh donne, printemps comme automne, fais vibrer ton bois. Donne, quand ça carillonne, je fais glisser ma voix. Sonne, ukulele sonne, que ton bois résonne sous le glissé de mes doigts. Oh, sonne, fais chanter ton homme, vois comme ça rayonne lorsque ton son se déploie. En donne, printemps comme automne, fais vibrer ton bois. Donne, quand ça carillonne, je fais glisser ma voix.
Des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Comment parler des empêcheurs de penser en rond sans évoquer les punks? Nicolas Bonanni et Margot Capelier ont eu l'excellente idée de nous raconter 40 ans de l'histoire du punk à Grenoble à travers 60 témoignages et pas mal de photos et dessins. Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province, 1980-2020, est paru aux éditions Le Monde à l'envers, une maison d'édition grenobloise que Nicolas Bonanni nous présente.
C'est des livres qui, pour la plupart, parlent soit de lutte sociale, soit d'histoire sociale, avec souvent une entrée locale. Souvent, on publie des choses qui parlent de Grenoble ou de la région. On avait fait un bouquin autour du Center Parcs de Roibon et de l'opposition qu'il y a. Un livre sur le bilan du premier mandat d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble. Des livres sur l'histoire de l'immigration à Grenoble, par exemple. Et là, ce livre, il s'inscrivait un peu là-dedans parce qu'il raconte des choses, un petit morceau de l'histoire de la ville avec un peu des implications politiques, un peu. Et avec vraiment une entrée locale.
Faire du punk, c'était faire un doigt d'honneur à tous les Clapton, ceux qui savaient super bien jouer et qui te donnaient des leçons. Toi, avec tes trois accords, tu pouvais te monter sur scène et t'exprimer. D'un seul coup, les portes étaient ouvertes et les choses se renversaient.
Oh, Oui, il y avait vraiment ce truc, surtout au début, de se dire, bon, moi j'écoute tous les rockers des années 70, genre ils sont là, ils font des solos de ouf pendant des heures. Bon bah j'en ai marre quoi, moi je veux faire mes trois accords, je veux que ça aille méga vite, je veux chanter méga fort et puis c'est tout.
C'est quasiment que des initiatives qui sont nées et qui se sont développées en dehors des institutions, voire pour un certain nombre d'entre elles, contre elles quoi. C'est des trucs, bah, des petits collectifs de bénévoles. Je sais pas, il y a peut-être un tiers des concerts dont il est question là-dedans qui se passent dans des squats. Y a, parce que comme il y a une tentative d'articuler ça avec la volonté de vivre autrement, de changer le monde, bon bah il y a la volonté de ne pas passer par les institutions. Bien sûr, on va trouver un ou deux collectifs qui ont touché des subventions. À un moment, on raconte des histoires de gens qui se sont professionnalisés. Mais d'ailleurs, les histoires telles qu'on a choisi de les rapporter, peut-être, bah, c'est plutôt des gens qui reviennent de ça, quoi, et qui disent bah, la professionnalisation, l'institutionnalisation, il y a des bons côtés, et notamment ça paye mieux. Mais en fait, on perd l'esprit.
Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province 1980-2020. Un titre et un sous-titre qui en disent beaucoup dans la démarche et la construction du livre.
On a marqué dans une ville de province, dans le sous-titre, c'était pour faire ressortir que c'était dans une ville de province parmi d'autres. C'est-à-dire que les histoires qui sont dedans, elles sont certes très singulières, il y a vraiment des histoires d'individus, il y a des histoires qui sont arrivées à des personnes en particulier, mais on avait l'impression, enfin, ce qu'on aurait aimé faire, peut-être ce qu'on a réussi à faire, je ne sais pas, c'est un livre qu'on peut lire avec intérêt, même si ce qu'on connaît, c'est l'histoire de Saint-Étienne, de Lyon, de Roanne, ou voilà.
Nous, ce qu'on a fait, c'est recueillir une soixantaine de témoignages qu'on a assemblés après. Et on avait vraiment, la façon dont on a assemblé ces témoignages, on avait vraiment envie d'avoir, enfin, qu'à la lecture, on sente ce truc vivant de la discussion, quoi. Enfin, et du coup, l'oralité, ben, c'est aussi un outil de transmission. Donc là, c'était vraiment signifier ça, quoi.
Nous, on avait très envie que cette histoire soit racontée à plusieurs voix, évidemment, mais même, je sais pas, on va dire une thématique ou l'histoire d'un lieu, elle est rarement racontée par une personne. Peut-être quand c'est ça, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres gens ou qu'on avait la flemme d'y aller, mais souvent les histoires sont racontées à plusieurs voix. Et on est allé chercher des gens, pas forcément les plus évidents, quoi. Il y a des... On n'a pas fait le tour uniquement des X personnes indispensables, les piliers de la scène. On a essayé un peu d'aller voir des gens qui, pour certains, n'ont jamais organisé de concert, n'ont jamais joué dans des groupes, parce que c'est une scène musicale où ce qui est assez particulier, c'est que justement, elle ne se résume pas à la musique. Et il n'y a pas que les gens qui jouent dans des groupes qui sont importants. C'est composé vraiment des gens qui sont là et pas seulement des musiciens.
Et alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces témoignages de l'histoire du punk dans une ville de province?
C'est clair que c'est pas très clair. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont des potes. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont envie de faire de la musique. Il y a des gens qui sont là parce qu'en fait, ils sont en révolte contre la société. Et c'est soit de s'organiser avec d'autres personnes qu'ils ont trouvées, soit de crier le plus fort possible dans un micro. Et du coup, c'est un mouvement un peu foutraque. Qui est aussi bien constitué d'une sorte d'énergie subversive. Je sais pas si c'est vraiment le thème de ton émission, là, les empêcheurs de réfléchir en rond ou quoi. Et puis il y a aussi juste des gens qui se font embarquer par l'énergie, et c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est un gros mélange de plein de gens qui ont plein de motivations différentes. Et quand même, je sais pas, moi, il y a quand même assez peu de gens qui sont en école de commerce et qui portent des costards toute la journée là-dedans. Mais en réalité, il y en a, hein, je crois.
Organiser un concert, c'est pas seulement être sur scène, c'est aussi aller démarcher pour que les gens y viennent, nettoyer les chiottes, faire à manger, trouver quelqu'un pour accueillir. Enfin, ça peut être le pote qui a un appart plus grand, ou c'est vraiment une pluralité de personnes qui font ça collectivement, quoi. Et c'était aussi ça qu'on voulait mettre en lumière avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est plein d'individus, mais plein d'individus qui font les choses ensemble et aussi par plaisir, et faire les choses ensemble, parfois c'est compliqué. Enfin, on voulait on a essayé aussi de pas faire un espèce de tableau idéal avec genre les têtes d'affiche ou j'en sais rien. C'était montrer toute la complexité de cette histoire collective, quoi.
Des soirées où je ne vois pas de meufs sur scène, ça me gonfle. Voir que des couillus en soirée, ça me fait chier. ça me fait toujours plaisir de voir des nanas sur scène ou au son.
Il y a toute la question quand même de la place des filles dans la scène qui traverse le bouquin. Et où il y a, je sais, c'est dans les années 2000 où on nous a beaucoup raconté ça, comment des filles ont décidé de faire leur place et que ça fait écho à... Il y a des mecs qui étaient là et qui font, je sais pas si ça s'appelle des efforts parce que c'est normal, mais qui se poussent un peu pour faire de la place. Et puis il y a des filles qui poussent pour dire bah, on est là, on fait nos trucs, quoi.
Ce truc de bon, bah en fait, là je sens que c'est un peu bloqué devant moi, bah, je vais foutre un gros coup de pied et puis je vais y aller et je vais le faire, c'est tout, quoi. Et ça marche pour la place des meufs, d'autant plus dans les témoignages qui ont été racontés, c'est vraiment ça. Comme ça marche aussi, enfin, dans un contexte où t'es pas à l'aise et t'as envie d'y aller, quoi.
Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province, un livre qui rend hommage aux personnes qui font vivre cette scène punk depuis au moins 40 ans, un livre qui questionne aussi sur l'évolution du mouvement.
Il y a ça derrière le bouquin, on l'a pas dit, mais il y a le truc de rendre hommage à des gens qui se sont beaucoup bougés, et en fait tout ça, ces groupes, ces associations, ces groupes de musique, ces associations, ces lieux, c'est que des choses qui ont une durée de vie très limitée, on va dire en général 4 ans maximum, je dirais. Après, les lieux, ils ferment, les groupes, ils se séparent. Il y a quelques trucs qui durent plus longtemps, hein, mais... Et du coup, c'est une histoire qui file très vite, qui disparaît. Et si en plus, toi, dans l'histoire, t'as juste été la petite main qui collait les affiches, bah, plus personne se souvient de toi, à part les gens qui t'ont aidé à organiser le concert. Et on trouvait ça, en fait, un peu triste, quoi. On avait envie de donner la parole à une partie de ces gens-là, que d'autres gens racontent toute cette énergie, quoi. Des énergies souvent un peu invisibles, parce que toi, tu peux évoluer à Grenoble sans croiser cet univers-là, voire même tu peux y aller sans capter qui est-ce qui met de l'énergie. Et puis, voilà, très rapidement, au bout de quelques mois, quelques années, si ça n'existe plus, ben, c'est oublié.
Ben non, il n'y a pas à manger. Do it yourself. C'est le titre du dernier chapitre de Grenoble Calling.
Pourquoi le dernier chapitre il s'appelle comme ça? C'est vrai, c'est quelqu'un qui raconte qu'il organise un concert, puis il a un peu la flemme en fait. Bah, déjà, il fait venir des groupes, il fait des affiches, il trouve une salle, il fait en sorte que le concert a lieu, puis il y a des gens qui se pointent et puis qui lui disent mais y a pas à manger là, d'habitude il y a à manger. Et puis il est là, mais non, mais en fait, bah, bougez-vous quoi, si vous organisez vos concerts. Faites un truc, quoi. Là, vous avez pris l'habitude qui est à bouffer, mais en fait, c'est simplement c'est de l'énergie bénévole. C'est moi, là, il y a ce groupe chilien que j'ai envie de faire jouer. Déjà, je me bouge. Donc, non, il n'y a pas à manger, quoi. Comme c'était quoi? C'était Jello Biafra des Dead Kennedys qui disait ça pour les médias, quoi. Il disait détestez pas les médias, devenez les médias. Mm. Bon, bah là, voilà, s'il n'y a pas à bouffer dans un concert, ben désolé, organise-en et fais à bouffer toi. Il y a vraiment ce truc-là qui traverse tous les projets, je pense, qui sont dans ce bouquin. C'est des gens qui font les trucs par passion et quasiment tous bénévolement, avec très peu d'argent, quoi, que à l'énergie.
Oui, puis ce chapitre-là, il montre aussi la propension de cette scène-là à se remettre en question. C'est-à-dire que ce qu'il dit là-dedans, c'est aussi, bon, ben, on a pris des habitudes, à un certain moment, on va faire nos concerts prix libre, on va faire à bouffer, on va essayer de faire que ce soit vraiment accessible pour tous. Et en fait, il explique que ça devient des évidences, et à partir du moment où c'est des évidences, est-ce que c'est pas là aussi où il faut qu'on se demande, pourquoi c'est une évidence, et est-ce qu'il faut pas qu'on cherche tout le temps à sortir de cet automatisme et cette facilité-là, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression.
Ouais, qu'on aille plus loin, qu'on change. Enfin, tout ce que t'as dit, là, prix libre, qu'il y ait de la bouffe végane au concert, ce qui est l'habitude dans certaines scènes, c'est super. Mais le truc qu'on avait aussi envie de contribuer à faire avec le bouquin, c'est que tous ces gens qui racontent leurs pratiques, que ça puisse permettre un peu de les mettre en perspective et puis de s'en inspirer, de changer, ouais, c'est ça, quoi, d'aller plus loin.
Aussi. Ouais. Enfin, vraiment ce truc-là, quoi, si on fait les choses par nous-mêmes, peut-être qu'il faut qu'on les fasse aussi parce qu'on y trouve le plus de sens possible. Et du coup, ben, il y a ce truc où ça te paraît une évidence qu'il faut faire le concert prix libre, bon, bah, finalement, t'es toujours dedans. Est-ce que c'est vraiment adapté ou est-ce que ça veut vraiment dire ce que t'as envie que ça dise? Bon, bah, voilà, on va se regrouper, on va se poser la question et on va essayer peut-être de voir si... c'est autant ce qui correspond ou pas à ce qu'on fait à ce moment-là, quoi.
Merci à Nicolas Bonanni et Margot Capelier pour ce livre et pour avoir répondu à nos questions. Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province, est également accompagné d'un CD 15 titres qui nous ont servi pour le montage de cette émission. Et en guise de conclusion, puisque Aura des Pâquerettes est diffusée dans pas mal de villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et si vous faisiez votre propre histoire du punk?
Il y a des gens, quand on préparait le livre, qui nous disaient « Mais pourquoi vous faites ça sur Grenoble ? Grenoble, c'est... Je sais pas, Lyon, c'est connu, il y a quelques trucs, Bordeaux, Paris, mais pourquoi Grenoble ? » Bah parce qu'en fait, dans toutes les villes de province comme ici, en réalité, il y a une histoire depuis 40 ans ou plus de scènes indépendantes, de scènes bruyantes qui existent et qui méritent d'être... qu'il mérite d'être documenté. Ça permet de raconter un petit morceau de la ville et puis pourquoi pas d'inspirer d'autres gens pour faire eux ce qu'ils auraient envie de faire.
Aura des Pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Isso da lira não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro, eu que vá ganhar. Rosa de ouro, eu que vá ganhar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Isso da lira eu não posso negar. Isso da lira eu não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar.
Aura des Pâquerettes.
Je suis donc cet après-midi dans un salon de thé à Grenoble, en centre-ville. Il fait beau, il y a les oiseaux qui chantent. Et je suis en charmante compagnie puisque je suis avec Pauline de l'association Patriarchie. Elle est la directrice, en tout cas la fondatrice de cette association. Et elle va être avec moi pour discuter de cette association plus en détail, mais aussi parler des valeurs que vous portez, ce que vous créez, les ateliers. Bref, on va tout savoir, tout connaître. Donc voilà, préparez-vous, hein, vous allez entendre parler de féminisme, de genre aussi, d'inclusion et de plein d'autres notions en lien. Bonjour Pauline, merci beaucoup.
Bonjour.
D'être avec moi aujourd'hui.
Eh ben, merci à vous de m'avoir invitée, ou à toi, on peut se tutoyer.
On va se tutoyer, alors ce sera plus sympa. Alors tout d'abord, hein, on peut commencer peut-être par faire un petit topo sur l'association Patriarchie. C'est une association grenobloise très récente.
Tout à fait. Du coup, nous on a un an, on est une asso, je préfère pas nous enfermer dans le terme association féministe, même si en gros une association qui porte très fièrement des valeurs féministes, d'inclusivité, mais voilà, on aime bien toucher à plein de thèmes différents. Donc nous, un peu notre truc de prédilection, c'est les thèmes sociaux et l'injustice en ce sens large. Et pour ça, on aime bien dire qu'on mélange un peu militantisme et conneries, au sens où on a choisi un angle d'attaque assez léger qui passe par l'humour, pas pour trivialiser, pas pour diluer les sujets qu'on aborde, mais parce qu'après tout, on est toutes bénévoles et qu'on a envie de passer un bon moment.
Vous indiquez que vous faites une propagande de qualité pour annoncer ces sujets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une propagande de qualité?
Alors, notre prosélytisme est très simple. Il est basé, du coup, sur Patriarchie Magazine. Donc, Patriarchie Magazine, c'est un faux magazine, en fait, qui n'existe pas. On ne peut pas s'y abonner, on ne peut pas l'acheter. Voilà, on me le demande souvent. Donc, c'est pas un vrai magazine, c'est vraiment une série d'illustrations qui reprend les codes d'un magazine féminin. Mais on n'a que des couvertures, il n'y a vraiment pas de contenu. C'est très vide, c'est très sarcastique en fait. Et voilà, et donc ça, on va dire, c'est un peu notre manière de, je pense, de faire connaître l'association, mais aussi faire comprendre un peu notre modèle, notre concept. C'est-à-dire parler de sujets assez engagés, mais de manière drôle en fait. Et en fait, c'est un peu prendre son audience par les sentiments. Avec ce truc, voilà, de les personnes rient, mais quand tu ris, c'est qu'au final, bah déjà, tu comprends qu'il y a quelque chose, parce que c'est drôle si... La blague est drôle si elle soulève quelque chose, si elle renvoie à quelque chose, donc...
C'est vrai que pour les auditeurs, les auditrices qui ne visualisent peut-être pas encore de quoi il s'agit, il faut un peu qu'on décrive. Il s'agit de magazine, donc ça reprend déjà les codes des Unes, c'est-à-dire avec des slogans très porteurs, entre guillemets bienveillants, parce que derrière, quand on gratte un peu, ils sont tous bienveillants. Je vais en citer quelques-uns qui, moi, ont retenu mon attention et qui vous permettront de mieux comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, une femme sur deux atteinte d'hystérie, faites-vous dépister. Interview, un mec t'explique la vie. Encore une autre, 10 insultes qui prouvent que ton copain tient à toi. Et mon petit préféré, le hors-série spécial quarantaine, défier les lois de la gravité. Mais alors, avec l'humour, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi donc le moyen de un peu poser les bases de qui vous êtes.
Ouais, je pense que c'est un peu tout Patriarchy Magazine. C'est sûr qu'à la base, on me demande d'où vient cette idée, machin. En vrai, moi, c'était juste, ça vient de la colère et de mon ras-le-bol. Hein, vraiment, c'était clairement, c'est un exutoire à la base. C'est tout ce qui m'énerve, en tant que femme, en tant que peu importe, c'est vraiment cette société, toutes ces injonctions qu'on se prend là, il faut être heureux, il faut être machin, il faut faire du sport, il faut... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on fait déjà ce qu'on peut, et que c'est déjà pas facile pour tout le monde, et que si on pouvait déjà être des bonnes personnes... Avant de manger bio, je pense que ce serait bien.
Et puis, il faut préciser que tu es l'illustratrice de beaucoup de ces créations. Et tu as aussi collaboré avec d'autres artistes.
Oui, c'est ça. Moi, à la base, je suis artiste. Bon, j'aime pas trop. Je suis artiste, voilà.
Tu crées, en tout cas.
Voilà, je fais des dessins, je fais pas mal de trucs. Et j'écris aussi, c'est plutôt pour mon... J'écrivais plutôt pour mon boulot. Mais c'est vrai que je le retrouve un peu dans cette expo, ce côté du texte, des designs, de l'art digital, etc. Après, je voulais pas... je pense que c'est pour ça que ça a aussi dégénéré en asso. C'est que moi, à la base, j'avais pas forcément envie que le projet tourne autour de moi. Parce que Pauline, elle a sa vie qui est ce qu'elle est, il n'y a pas de souci. Mais je représente pas les femmes, clairement. Mais que ce soit vraiment une plateforme, que ce soit un peu un modèle type... pour qu'on puisse aborder plein de sujets différents, pour que d'autres personnes puissent s'exprimer aussi, voilà.
Il faut parler de ces planches qui sont incroyablement colorées tout le temps, tout comme l'esthétique de votre site internet, tout est vivant et coloré. Ouais. On n'est pas sur des donneurs de leçons. Tu as évoqué les ateliers que vous proposez au sein de cette association. Alors, il y en a eu un très récemment qui était autour du twerk.
Ouais.
Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le twerk? Car le twerk est une danse.
Ouais.
Et pourquoi vous avez voulu vous emparer de ce sujet pour en faire un atelier? Qu'est-ce que vous avez voulu déconstruire ou construire autour de cette thématique? Qu'est-ce qui était important pour toi?
Alors, le twerk, qu'est-ce que c'est? Le twerk, en gros, c'est un mouvement de danse, un espèce de déhanchement donc des fesses et du bassin qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de... clip de musique dite urbaine, même si je suis pas fan du terme, dans le hip-hop, dans le dancehall, etc., qui à la base est originaire, enfin du moins découle de danse plutôt traditionnelle africaine où on fait bouger donc son bassin et ses fesses. Nous, ce qui nous a intéressé dans cette thématique, je pense que c'était de montrer aussi nos engagements nous chez Patriarchy, qui sont oui très féministes, et je pense que c'est souvent ce qu'on met beaucoup en avant, parce que nous aussi on aime le mettre en avant, mais il y a d'autres combats qui nous intéressent. L'idée donc c'était un peu de parler des luttes antiracistes, de l'appropriation culturelle, de l'objectification, de la fétichisation du corps des femmes noires. Et nous chez Patriarchy, ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'on fait à travers les ateliers, c'est que en fait chaque atelier est co-animé. On a un intervenant qui est experte et qui est légitime à aborder de son sujet. Et donc l'atelier twerk, c'était grave intéressant. Donc on a abordé en gros vraiment l'origine en fait, l'histoire du twerk, d'où ça vient. C'était assez intéressant de voir en fait tous les sujets que ça nous permet d'aborder, notamment l'objectification, et la fétichisation du corps noir. Et l'appropriation culturelle, qui est quand même énorme, parce que le twerk, c'est Miley Cyrus en 2013. C'est en 2013, d'ailleurs, que le terme est rentré dans le dictionnaire anglais. En gros, nous, dans les ateliers, t'as une petite présentation qui dure, 15-20 minutes. Donc, c'est un bon vieux PowerPoint, quoi. Et ensuite, on a un atelier concret où on fait des choses. C'est pas des masterclass, c'est vraiment, on danse, on se maquille, machin. Et donc pour ça, j'avais mis des petits extraits pour montrer les différentes danses, comment le truc a évolué, etc. Et l'extrait de Miley Cyrus, elle twerk en plus pendant peut-être 5 secondes, quoi, en fait. C'est minime, enfin, c'est vraiment infime dans l'histoire du truc. Et bah, c'est elle qui a rendu populaire le truc, qui a normalisé le truc, qui l'a fait rentrer comme vrai mot dans le dictionnaire. Enfin, c'est vraiment, on s'accapare vraiment une
Est-ce
culture
pas
millénaire
aussi
en plus,
ce
quoi.
Ce mauvais point de vue qu'on peut avoir sur le twerk.
Bah oui, carrément, parce que du coup, elle a amené un truc hyper sexuel, déjà de par bah, la chanson sur laquelle elle a fait sa performance, sa tenue, et puis son... Comment dire, sa manière de se comporter, quoi, cette volonté en tout cas d'être hyper sexuelle, que moi je la critique pas du tout pour ça. Hein,
oui,
c'est
oui,
pas,
oui.
Moi, on n'est pas dans la
du
critique.
Coup, ça a été associé maladroitement à de l'hypersexualisation.
Exactement.
Alors que, initialement, c'est une danse.
Oui, c'est une danse, et puis c'est pas du tout une danse qui est sexuelle en fait à la base. C'est nous, de notre point de vue eurocentré, voilà, on associe les fesses à les machins à, donc c'est sexuel, mais. Quand tu regardes, je veux dire, tu t'intéresses un peu à l'histoire, c'est une danse qui est pratiquée par des enfants, des hommes, des personnes âgées. On n'est pas du tout sur un truc voilà, de la sexualisation à fond du corps de la femme.
Un autre atelier qui va être proposé, l'atelier drague.
Ouais.
Donc là, effectivement, on va se questionner plus sur le genre, sur la représentation qu'on en a tous. Pour quelle raison vous avez choisi de ce biais drague? Je suppose que c'est de drag queen.
C'est ça, oui. Des fois, on me demande si c'est un atelier de comment draguer.
Pourquoi avoir voulu choisir ce biais très, très original, mais aussi très spécifique, pour parler de cette question qui est plus universelle, je trouve. Mm-hmm. Puis, drague peut avoir aussi des préjugés autour de ça, des stéréotypes. Pourquoi avez-vous choisi ce biais-là?
Parce que c'est fun, je pense. Franchement, en tout cas, moi, je sais que bon, la plupart des ateliers, je pars du principe, et nous, quand on les sélectionne, on est un peu notre cœur de cible. C'est-à-dire que c'est un peu, bon, bah moi...
Faut que ça vous plaise à
ouais,
vous.
Ouais, où est-ce que moi, j'aimerais aller? Qu'est-ce que moi... En fait, il y a ça aussi, c'est, comment dire, être un peu à l'origine du changement pour se dire un peu, OK, moi, dans quel monde je veux vivre? À quelle soirée j'ai envie d'aller? Quel événement j'ai envie de faire le week-end? Voilà. Des trucs qui moi m'intéressent. Et y a cette idée évidemment, bah voilà, de on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc ben il faut faire un truc fun auquel les gens aient envie d'aller et que derrière on leur glisse une petite pastille comme ça là de militantes engagées, de trucs qu'ils n'ont pas d'habitude trop envie de se prendre la tête, comme on dit. Mais en vrai c'est toujours très intéressant. Et donc ouais, le drag, je pense que c'était un peu ça, c'est que c'est quelque chose de. Spectaculaire, c'est pailleté, c'est vivant. Dans le drag, c'est qu'au final, tu te crées un personnage ou un univers. Tu peux complètement changer de genre. La liberté d'explorer, en fait, le genre. Et je pense d'explorer sa propre personnalité et de se réinventer.
Mais du coup, concrètement, ça va être construit comment, cet atelier? Qu'est-ce que vous allez... aborder comment parce qu'il va y avoir un côté fun, un côté aussi plus peut-être militant comme tu l'as dit, même si c'est pas non plus le cœur de cet atelier. Comment ça va être organisé en fait?
Alors l'atelier drag, ce qui est cool, c'est qu'on l'a déjà fait l'an dernier, on le refait parce qu'en fait il avait vraiment comment dire, il y avait une vraie effervescence. Après je pense que c'est pour ça qu'on continue aussi, c'est que les ateliers c'est toujours c'est une ambiance très particulière. En gros, donc on a fait cet atelier, à l'époque on était dans une petite galerie Courberia. Les dragues, donc toujours avec Acetona Versace et Clotilde du 38, avec qui on le refait cette année. La structure des ateliers, grosso modo, c'est toujours pareil. 15, 20, allez, 30 minutes de présentation où on peut aussi un peu discuter, où en gros, voilà, on va à des supports visuels et on parle un peu de brève histoire du sujet qu'on aborde, quelques thématiques, on peut présenter des personnes connues ou peu importe. Donc il y a toujours ce truc un peu militant, mais qui est toujours fun, c'est vraiment la manière patriarchie, quoi. C'est que c'est toujours un peu décalé, mais attention, nos présentations, elles sont... Tout est ressourcé, tout est très recherché. C'est vraiment le fruit d'un travail, c'est pas un truc... voilà. On est toujours accompagné, du coup, bah là, par exemple, voilà, on fait du drag avec des drag queens. Du coup, ça va être vraiment... qu'est-ce que toi, t'as envie de faire, quoi? Est-ce que t'as une idée? Tu veux créer un personnage? Tu trouves un nom de scène? Et elles vont t'aider à te maquiller, à cacher tes sourcils, te donner des astuces et machin. Et en même temps, on avait fait un espèce de Q&A drag, où du coup, bah voilà, tu pouvais poser tes questions. Si t'as des questions à poser à une drag queen...
Un dernier mot quand même sur le troisième atelier que vous allez proposer, sexisme d'outre-tombe. Et là, cette fois, ben, on va aller visiter un cimetière.
Ça fait.
Et on va aller combattre le mansplaining posthume, c'est-à-dire remettre des noms sur des femmes qui ont fait des choses, mais qui ont été un peu peut-être tombées dans l'oubli.
Ouais, en fait, c'est ça à différents niveaux. En gros, moi, à la base, je suis allée au cimetière de Grenoble une fois. Parce que je me dis, j'y étais jamais allée. En fait, il est très beau, il faut aller le visiter, en vrai, c'est assez stylé. T'as une partie très ancienne, c'est vraiment Enfin, franchement, c'est cool, quoi. Bref, j'y suis. Et je sais pas, je vois des tombes. Franchement, j'étais quand même étonnée. Où c'était juste veuve machin.
Oui.
Mère bidule. Voilà. Et genre, je trouvais ça quand même... C'est fou, quoi. Donc, dire, tu vois, on subit dans le, voilà, la vie de tous les jours, le sexisme, les injustices, patati patata. Ok. Mais même après la mort, t'as les gonzesses sont mortes depuis 300, 400 ans. Et ben, quand même, on te poursuit jusqu'au bout pour, voilà, pour, t'existes pas. Elles ont pas de date de naissance, elles ont pas de nom, de prénom, de profession. Voilà, ça j'avais trouvé ça quand même un bel exemple, en tout cas assez intéressant, voilà, de tous ces trucs qui nous dépriment un peu. Et donc le sujet m'a intéressée. Et en gros, j'ai contacté directement, il y a une association en fait, l'association du cimetière Saint-Roch, et donc Anaïs, qui est adhérente d'ailleurs de notre asso désormais, qui présente l'atelier. Donc on a vraiment collaboré ensemble sur la création de cet atelier, où tu as une volonté de se balader dans le cimetière et de montrer, effectivement, de passer par différentes tombes de femmes plus ou moins connues. T'en as certaines qui sont assez connues, en fait, qui ont fait des trucs assez intéressants et qu'on ne connaît pas du tout. Et t'en as d'autres, en fait, qui pas particulièrement connues, mais c'est pour te montrer aussi les différentes places qu'on réserve aux femmes après la mort. En fait, elles sont assez distinctes. C'est clairement en rapport à ton mari. Donc, tu peux être ou femme, ou mère, ou veuve, ou fille. Voilà, donc c'est vraiment... Enfin, voilà, on est vraiment là dans ce truc où tu vois, t'es pas...
Pas toi,
lui, il est pas mari. C'est, voilà, ouais. C'est ton rôle, ok, vraiment en relation avec ce que... Voilà, avec l'homme important de la famille. Ou alors, les places qu'on réservait aux femmes à l'époque, donc religieuses, ça, c'était ok. Accoucheuses, ça, c'était ok. Ou femmes de... Voilà. Après, du coup, t'as du coup forcément des exceptions qui confirment la règle. Donc là, c'est intéressant. T'as des artistes intéressantes qui sont enterrées au cimetière de Grenoble. T'as des femmes avec des morts complètement insolites qui sont enterrées au cimetière de Grenoble. C'est aussi une manière de, voilà, au niveau historique, en tout cas, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire de ta ville, c'est assez cool en fait, parce que bah c'est vrai qu'au cimetière, ben bah, t'as tous les gens qui ont fait l'histoire en fait, hein, qui finissent bien à un endroit. Donc la thématique est hyper intéressante. Les présentations, c'est très recherché, donc voilà, il y a beaucoup de lectures en amont sur des différentes articles et recherches académiques sur plein de trucs, et notamment là-dessus, enfin, il y a beaucoup d'études en fait qui ont été faites sur les cimetières et les représentations et même dans, comment dire, les rubriques nécrologiques.
Rubriques nécrologiques.
Voilà. Et donc dans les rubriques nécrologiques, on se rend compte que les femmes, elles ont enfin voilà, elles ont beaucoup moins de chances d'avoir une photo, d'avoir leur texte est beaucoup moins long. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'expliquent pas simplement en fait par une vraie, une pure misogynie, mais aussi, par exemple, elles vont avoir moins de photos parce que souvent c'est les femmes qui gardent les photos. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça mélange beaucoup de thèmes en fait. Voilà, ce truc de, je sais pas, charge mentale, gérer la famille, patati patata. Bah, en attendant, quand tu meurs, bah, y a personne pour trouver des photos de toi, pour écrire un peu un texte un peu sympa. Et voilà, en fait, c'est un peu intéressant de montrer que Il y a aucun moment où on est tranquille, en fait. Tu sais, tu peux être vraiment 6 pieds sous terre et être mort au 17e siècle. Et ben quand même, la société patriarcale
se roule dessus.
Voilà, tout à fait.
Et ben merci beaucoup, Pauline, ben, d'avoir
merci
été
à toi.
Avec moi.
C'est vraiment sympa.
On peut peut-être retrouver tes informations sur un site internet et tout réseaux sociaux.
Et ben alors, n'hésitez pas, du coup, c'est patriarchie.com. Donc, il y a toutes les affiches qu'on a faites. Vous pouvez aussi les acheter si vous voulez soutenir l'association. Voilà, vous pouvez les acheter. Et on est sur Instagram, Patriarchie Magazine. Donc voilà, sur Facebook aussi, si vous voulez, on y est moins, parce qu'on est jeunes, mais c'est pas grave, vous avez le droit quand même.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Et en spécial bonus track, Aura des pâquerettes vous propose un portrait sonore de quelques-uns des pionniers du punk et du rock de la région grenobloise, rencontrés lors de l'exposition Un mois punk à la bibliothèque Saint-Bruno à Grenoble.
Moi, je m'appelle Thierry Luciani. En fin de compte, on a fait partie d'un groupe de 78 à 82. Donc, c'était les balbutiements, on va dire, des trucs. Donc, des groupes, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Le premier groupe de Grenoble, c'était Electric Garbage avec l'adjoint, bon, enfin, Jean-Jacques, qui avait déjà organisé des concerts avec Pomme Acide. Après, il y a eu Fleur de Nave, qui était en fin de compte devenu Roxette plus tard. Il y avait qui encore, il y avait Inès Rock, il y avait Tête Destroyer. Donc c'est vrai que chaque époque, on peut leur, comment dire, leur cri révolutionnaire, voilà, bon, par la musique, par les paroles, par les choses comme ça. C'est vrai que nous, c'était plus inconscient, on tapait un peu, donc les paroles, c'était pareil, hein, on n'était pas dans du Baudelaire. Hein, donc ce que j'en retiendrai, bah, c'est avoir 20 ans, 77, c'était magnifique.
Je suis Olivier, je suis le chanteur de Roxette. Avant, on avait un groupe qui s'appelait Fleur de Nave, après, on a eu un groupe qui s'appelait Courage. 77, jusqu'à maintenant. Pour pas mal de gens, le 77 et les punks, ça a été une révolution. Et en tout cas, c'est mon cœur. Moi, j'ai pris une gifle quoi, avec le punk. Et on a fait notre premier concert, donc avec Fleur de Nave, en décembre 77. Je pense que la contestation, elle était dans le rock. Quoi, et il n'y avait pas de... On revendiquait rien, vraiment rien du tout. On avait juste envie de hurler, de brailler. Bah, y a eu vraiment une scène rock importante à une époque, enfin l'époque des Batman, de Roxette, des Sugar Kings, les Tijuana Kids, les Voyeurs. Il y avait vraiment une scène dans les années 80, début des années 80, milieu des années 80, on va dire, qui était vraiment... importante.
Enfin, moi je suis Christian Vitoz, donc j'ai joué dans une multitude de groupes. Quoi. Nous les 4 ans de Batman, ça a été 4 ans tip top. Sans calcul ni rien, nous ça nous est tombé un peu par hasard dessus, ouais. Parce qu'on bossait tous. Patrick le bassiste était charpentier, Roberto était imprimeur, moi j'étais... Magasiné dans le béton, je brossais des sacs de ciment toute la journée et tout, qui faisait 50 kilos quand même à l'époque. Et nous, on avait la pêche quoi et tout, et puis on se régalait jouer, je pense que ça se transmettait. Et donc on a été un peu pris dans ce tourbillon, et c'était un grand plaisir quoi, mais dans nos textes quand même, on parle de... des fachos, on parle de Carignan dans Bubble Skies, enfin tu vois tout ça de la mairie de Grenoble et tout. Actuellement je suis dans un groupe où il y a Pat qui jouait dans les June Brass, ouais. Et Jean-Michel qui était le bassiste des Tijuana Kids, ça s'appelle Post Atomic Trio.
Moi je m'appelle Farid et j'étais batteur, plus ou moins batteur on va dire, parce que je ne me considère pas comme un batteur. Moi ce qui me plaisait c'était surtout de lancer l'idée et après je m'effaçais, je partais. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec les Voyeurs et les Fugitifs. Moi à cette époque-là, je veux dire, il y avait quelques trucs qui s'appelaient l'apnée, le Birdland, c'était des endroits... Il y avait quoi, 2 tonneaux, 2 planches, et un gars surtout qui s'appelait Jean-Jacques. Lui, c'était une tuerie ce gars. Et il y avait une telle énergie, une énergie. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose. On l'a fait, voilà, c'est tout. Bon, il n'y a pas de salle de concert. Eh bien, on va essayer d'en trouver une. Et on a fait des concerts. On faisait, il y avait une telle énergie, une telle puissance. Avec rien, on faisait. Voilà, c'est ce que je retiens sur Grenoble, puis c'était tout neuf, tout beau, tout neuf quoi. Et on n'avait pas grand chose, mais on l'a fait.
Et Thierry, j'étais auteur, compositeur, interprète dans No Comment dans les années 80.
Merci pour tous ceux qui sont partisans des relations à court terme.
Alors nous on était 3 copains d'enfance, on se connaissait depuis le CP. On avait fait donc l'école primaire, le collège, on a un peu dispersé au lycée, puis on s'est retrouvé après la terminale. Et puis on voulait absolument un deuxième guitariste, donc le batteur on a proposé un de ses copains et c'est comme ça qu'on est parti à 4. Et puis pendant 3 ans on a fait des concerts essentiellement à la fac. Et puis quelqu'un nous a vus, c'était Annick Angot, qui nous a vus à une fête de la musique dans un bar. Donc ça s'était passé très moyennement, on n'avait pas de sono, on avait juste joué avec notre cœur. Il nous a dit faites le tremplin pour les sélections pour Bourges. c'était en novembre 86. On est arrivé, moi j'étais à l'armée, j'ai dû faire le mur pour venir jouer. On n'a pas répété avant. Enfin, on a répété dans un bar, mais uniquement à la voix, puisque dans un bar, on n'avait pas d'instrument, on n'avait rien. On y est allé, on s'est dit, bon, on va jouer à fond, puisque de toute manière, on n'est pas prêt par rapport aux autres groupes qui avaient, eux, eu tout l'été pour préparer leur show. Et puis on a gagné, on s'est retrouvé à Bourges et pendant un an on a vécu un rêve parce qu'on n'avait pas besoin de chercher les concerts, c'était les MJC de Tour-en-Alpes qui nous appelaient pour qu'on joue et en plus ils nous payaient, ce qui était très nouveau pour nous. Mais ça a duré qu'un an parce qu'après ben, plus personne ne nous a appelés. Et puis comme nous on jouait plutôt, on n'avait pas grand chose à dire, c'est pour ça qu'on s'appelait No Comment d'ailleurs, hein, on n'avait pas choisi ce nom par hasard, on voulait faire de la musique et qu'on nous foute la paix. On nous a bien foutu la paix après. Réussite totale. Tout à fait, c'est une soupape de sécurité, hein, le rock, il faut que ça sorte. Donc bah, c'est que la pression, elle est là. Elle doit sortir, donc il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ouais. Donc c'est la constatation, oui.
Roberto Lozano, je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète et j'étais le chanteur-guitariste des Batman entre 84 et 88, le siècle dernier. Ouais, alors il y avait un bouillonnement qui était, effectivement à Grenoble, ça se passait à Grenoble, mais ça se passait un peu dans toute la France. On avait pas mal de groupes anglais, de pub rock anglais qui venaient, qui mettaient le carton. Et qui nous donnait envie de faire la même chose, parce que jouer dans les bars, c'était ce qu'on pouvait faire. Donc on avait cette formule basse, batterie, guitare, avec des voix, et les Batman, c'était ça en l'occurrence. Il y avait Christian Vitoz, Patrick Muin, mais moi-même. Miguel Nougier nous a rejoint un peu plus tard, mais on était dans une veine, dans une énergie, on va dire, punk, pub rock. Voilà, avec chacun ce qui était intéressant, avec chacun nos parcours et chacun nos, les sons qu'on aimait bien, chacun de notre côté, on a réussi à une espèce de tambouille qui a pris très vite. Il y avait le mouvement des fanzines, il y avait les radios libres, et tout ça, ça nous a accompagnés, quoi, c'est intimement lié. Alors on est parti, on a commencé par, je crois, peut-être un, deux concerts à Grenoble, et tout de suite on s'est retrouvé à Laval, dans un festival de punk rock, donc du côté de la Bretagne. Et puis il y a eu un article dans un fanzine qui a fait démarrer la chose, puisque après on a tourné pendant pratiquement 3 ans à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Angers, en Espagne, à Madrid aussi pendant une semaine, en Suisse. On a énormément tourné après, sur la foi d'un article qui a... Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais toujours pas. Oui, alors ça, le do-it-yourself, on le revendiquait à fond. Et effectivement, c'était pas de contester un système, même si de toute façon, il n'y avait pas grand-chose qui nous intéressait dans ce système dominant des grosses maisons de disques. On sait depuis longtemps que ce sont les labels indépendants qui prennent les risques et qui vont aller chercher dans les recoins, dans le moindre bar, un son, quelque chose de singulier, quoi, une approche singulière de la musique. Et donc pour nous ça collait parce que c'était l'idée de se faire son disque et de voilà, on s'est retrouvé sur un label indépendant qui s'appelait Closer, qui était basé au Havre. Donc on avait tout l'environnement qui était parfait pour nous accompagner sur ce chemin là.
Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
J'espère que vous avez apprécié ce voyage au pays des empêcheurs de penser en rond, entre cabines téléphoniques, histoire des punks grenoblois et militantisme humoristico-féministe. Et que des pâquerettes poussent d'ores et déjà dans vos esprits. Un grand merci à l'ensemble de nos intervenants qui ont permis d'enrichir cette émission. Et bien entendu, un grand merci à vous tous pour votre écoute.
Et l'ambiance musicale était assurée par le trio Petit Soleil, la nouvelle formation de Roberto Lozano, l'un des piliers de la scène rock grenobloise en 80 avec les Batmen.
Retrouvez-nous sur Radio Grésivaudan, du fromage plein les dents. La grosse bise.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.